Chapitre aux Hébreux, chapitre 9, verset 18.
Nous avons vu hier dans la première partie de ce chapitre, de ce paragraphe, nous a montré ou a tiré notre attention sur la valeur du sang porté dans le sanctuaire, la valeur du sacrifice offert sur la terre, Christ s'offrant lui-même par l'Esprit éternel, sans tache, donnant sa vie, et ayant obtenu une rédemption éternelle, ayant fait l'expiation du péché, étant fait propitiation pour nos péchés, il est entré dans ce qui était inaccessible jusqu'alors à l'homme, parce que l'homme pécheur, le sanctuaire céleste, dont le tabernacle des fils d'Israël à travers le désert était une image. La valeur infinie de cette vie ainsi offerte, de ce sang porté dans le sanctuaire, entraîne des conséquences inappréciables pour nous, glorieuses pour Dieu, et qui ne sont autre chose que l'accomplissement de desseins par des voies qui sont des voies de grâce, sa justice ayant été pleinement satisfaite. C'est ainsi que nous avons maintenant les croyants, ceux qui s'approchent de Dieu par Christ et qui sont appelés à rendre culte, et nous avons un chemin ouvert, nous avons un souverain sacrificateur qui est paré pour nous devant Dieu, nous retrouvons cela à la fin du chapitre, et qui intercède pour nous. Mais nous avons sur la terre la précieuse assurance de ce qui est appelé la purification de la conscience des œuvres mortes, afin que nous servions maintenant le Dieu vivant. Cela s'applique à tous les croyants. Les œuvres mortes étaient celles que produisait l'homme encore dans ses péchés, l'homme mort, et rien ne pouvait satisfaire le Dieu vivant. Et maintenant, et il y a une vie nouvelle et la possibilité, le privilège de rendre culte, de servir ainsi le Dieu vivant. Il y a toujours, en vertu de la valeur du sang ainsi offert et porté dans les lieux saints, un héritage éternel qui promis à la foi dès longtemps peut être maintenant mis entre les mains de ceux qui sont appelés et qui ont répondu à l'appel. Héritage qui sera proprement l'héritage terrestre ici-bas dans le millénium pour un peuple nouveau, en qui toutes les nations de la terre seront bénies, mais héritage éternel dont les bénédictions duquel déjà par la foi les chrétiens, les croyants de les dispensations actuelles peuvent entrer. Cet héritage est mis entre les mains de ceux auxquels il était destiné, du moment que le testateur du testament qui n'a pu être ouvert qu'une fois la mort intervenue, que le testateur effectivement est mort. Et c'est là que nous en étions arrivés, ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas à revenir aujourd'hui sur les versets précédents, mais il nous faut poursuivre dans le chapitre. La valeur du sang porté dans le sanctuaire nous retient toujours, n'est-ce pas, tout au long de ce chapitre. Il fallait le sang, une vie offerte pour les vies pécheresses qui étaient les nôtres. Et rien ne pouvait être donné à l'homme pécheur si la mort n'était intervenue. La mort de Christ, la mort d'une victime parfaite. C'est ce dont les rites, les cérémonies, les actes divers du culte lévitique, mosaïque, parlaient comme type. Et c'est pourquoi il nous est dit que la première alliance, l'alliance conclue en Sinaï entre l'Éternel et son peuple, a été inaugurée par du sang. N'a pas été inaugurée, elle vient avec la première alliance, n'a pas été inaugurée sans du sang. Elle n'est pas entrée en action, en action, sans que du sang ait été répandu. C'est ce que nous trouvons au chapitre 24 de l'Exode, comme cela nous est dit expressément ici. La loi ayant été proclamée par Moïse, il s'agit de la loi morale, des 10 commandements, ayant été proclamée par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même, le livre de la loi, la parole de Dieu, et d'autre part, sur tout le peuple, en disant: c'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné. Inauguration extrêmement solennelle, par conséquent, de ce que Dieu faisait. Ce qu'il contractait comme engagement avec ce peuple. Si vous accomplissez la loi, et si vous obéissez à mes commandements, c'est la bénédiction. Vous me serez un royaume de sacrificateurs. Mais si vous ne l'accomplissez pas, alors le sang est là qui témoigne contre vous. Le sang qui parle de cette responsabilité pesant désormais sur vous. Du côté de Dieu, l'engagement est total. C'est pourquoi le sang est sur le livre. Sur le livre, comme sur la parole de Dieu, une des parties contractantes, et d'autre part sur le peuple. Or, il est évident que du côté de Dieu, l'alliance a été gardée. Mais du côté du peuple, elle ne l'a pas été. Le peuple, parce que formé d'hommes pécheurs, ne pouvait pas garder la loi. Alors la loi s'est retournée contre lui, et le sang était là. Le sang parlant, demandant ici le jugement, demandant ici le châtiment des coupables, il s'était engagé à cela. Comment comment alors des rapports entre le peuple et l'Éternel pouvaient-ils être maintenus? Alors nous avons une seconde série de choses. Nous avons à partir du verset 21, de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi, et sur tous les ustensiles du service, et presque toutes choses sont purifiées par du sang selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Voici que Dieu, donnant des figures, des choses célestes sous la forme du tabernacle, et puis des ustensiles, et de tout le culte lévitique, montrait que par ce qui devait entraîner le jugement des pécheurs et du peuple pécheur s'il était laissé entièrement à lui-même, ouvrait une porte, on peut dire, sur l'espérance et sur le salut. Dieu lui-même, parlant par le sang de victime et l'aspersion de ce sang, parlant de ce sacrifice qui un jour serait offert et par lequel les péchés des autres, les péchés des pécheurs, les péchés de ce peuple, mais les péchés de tout homme seraient expiés. Un substitut. C'est ce qui a été fait lors, après la construction du tabernacle et son inauguration, non plus seulement la loi morale, mais le tabernacle lui-même. Il a été lui-même et tous ses ustensiles et tout ce qui y correspondait a été sanctifié, trouvons-nous dans le Coran de l'Exode, avec l'huile de l'onction, mais à propos de l'autel, il est dit à un endroit qu'il a été purifié, et un holocauste a été offert, cela dans, sauf erreur, dans chapitre 29, je pense, de l'Exode. Mais il y avait plus encore, c'est que ensuite, dans l'exercice du culte et dans la vie même du peuple, une année après année, il y avait des sacrifices particuliers qui étaient offerts afin que les relations entre le peuple et Dieu fussent maintenues. Et c'est ce qui est, on peut dire, sous-entendu, ce qui est en substratum de tout ce chapitre. C'est ce grand jour des expiations. Ce grand jour où le sacrificateur entrait dans les lieux saints. Tout cela figurant le sacrifice qui devait être offert, le sacrifice de Christ, tout cela figurant l'entrée de Christ dans les sanctuaires célestes, mais tout cela établissant aussi, et c'est toujours la base à laquelle nous sommes ramenés, la nécessité du sang versé, la valeur unique du sang du Christ, tout le reste étant la figure de cela. De sorte que fussent purifiées non seulement les consciences de ceux qui s'approcheraient, et non seulement les hommes, mais les choses célestes elles-mêmes, les lieux célestes eux-mêmes, dont on ose dire que la présence de Satan et de ses anges, le fait aussi que le ciel ait dû s'occuper de l'homme pécheur, se trouver souillé de sorte qu'il est question de la purification des lieux célestes. Et c'est ce qui, dans le grand jour des expiations, a été figuré par l'un des derniers actes de ces cérémonies, le sacrificateur purifiant le lieu saint et les abords du tabernacle, le tabernacle lui-même. Mais je pense que à ce propos, il serait bien utile, bien nécessaire, pour une véritable intelligence de ce chapitre et des choses dont nous parlons, que soit rappelé, replacé devant nous, précisément, ce que l'enseignement que nous donne le chapitre 16 du Lévitique concernant ce grand jour des propitiations. J'aime à penser que l'un de nos frères aura à cœur de nous rappeler cela.
Chers amis, que chacun ouvre sa Bible dans ce chapitre si important, le 16 du Lévitique, le contact par le cœur, mais le contact visuel avec la parole est souvent très profitable, et toujours très profitable.
Ce chapitre 16 du livre du Lévitique a été appelé le cœur du Pentateuque, non seulement parce que, en fait, c'est véritablement le chapitre milieu du troisième livre, un livre de Moïse, mais avant toute chose, à cause de l'enseignement fondamental qu'il présente, c'est véritablement le fondement qui est posé par les ordonnances du grand jour des expiations, le fondement qui est posé absolument nécessaire pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. On a dit que c'était là le grand sujet du livre du Lévitique. Comment l'homme peut-il s'approcher de Dieu? Quant à ce grand jour des propitiations, ou ce grand jour des expiations, qui était la sixième des sept solennités en Israël, le sixième des grands jours d'assignation en Israël, il y a, pour rester dans le sujet qui nous occupe, le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, il y a quatre actes qui nous sont mentionnés concernant le souverain sacrificateur, Aaron. Et ces quatre actes, nous les retrouvons attribués à la personne du Seigneur lui-même en la fin de notre chapitre 9e. Quels étaient donc ces quatre actes principaux? Nous ne voulons pas dire que c'était tous les actes qui était commis par Aaron, mais quels étaient les quatre actes principaux de ce grand jour que nous retrouvons, dont nous trouvons la réalité, la pleine réalité dans la personne de Christ, dans notre chapitre 9. Le premier de ces quatre actes était l'entrée d'Aaron, le souverain sacrificateur, dans le lieu très saint. On sait que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, si ce n'est Moïse et bien entendu Aaron lui-même. Nous lisons en effet au chapitre 16, au verset 3 de ce chapitre 16, Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint, le lieu même de la présence de Dieu. il devait y entrer avec du sang. Si Aaron était entré dans le lieu de la présence de Dieu, là où était l'arche, surmonté du propitiatoire, lui-même, surmonté des deux chérubins, c'eût été la mort certaine pour Aaron. Il devait donc, une fois l'an, entrer avec du sang dans le lieu de la présence de Dieu. Et ce sang, qu'en faisait-il? Il le plaçait sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc, le premier acte consistait en ceci, l'entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint avec du sang répandu sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Sur le propitiatoire, ainsi Dieu voyait ce sang et Dieu était satisfait par l'effusion de ce sang répandu sur le propitiatoire. Mais en même temps, devant le propitiatoire, ce sang était comme en figure, comme une proclamation pour le peuple tout entier de ce que serait plus tard le sang précieux de Christ, le seul sang qui puisse purifier de toute iniquité. Et ce premier acte, nous l'avons dans notre chapitre 9 au verset 24. Le Christ n'est pas entré dans des lieux saints, faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est le premier acte. Le deuxième acte était l'aspersion du sang sur le tabernacle lui-même, sur l'autel, sur les différents objets appartenant au tabernacle. Et que devait représenter en figure ce second acte, sinon cette purification du sanctuaire, comme on a dit? Cela devait représenter la purification de toutes choses, comme nous l'avons entendu, pas seulement des personnes, mais de toutes choses, dans les cieux et sur la terre. L'univers souillé par la révolte des créatures de Dieu. S'il s'agit du ciel, Satan lui-même et ses armées. S'il s'agit de la terre, l'homme. L'homme est une créature révoltée contre son Dieu. Un jour arrivera où l'univers tout entier sera purifié. Et c'est ce que nous avons dans notre chapitre 9, quand il est dit à la fin du verset 26, « Maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. » L'abolition du péché, c'est là certainement une conséquence de l'œuvre de la croix. Mais voyons-nous aujourd'hui que le péché soit aboli? Voyons-nous la pleine réalisation de l'exclamation de Jean le baptiseur, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !» Cela, en fait, ne sera réalisé que lors de l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Là, il ne sera plus jamais parlé de pécheurs ni de péché. Véritablement, le péché sera aboli. L'abolition du péché par le sacrifice de Christ. Et c'est ainsi que, comme conséquence de la purification de toutes choses, représentée par cette aspersion du sang sur tous ces objets du tabernacle et le tabernacle lui-même, nous aurons alors ce que l'apôtre Paul appelle dans l'Épître aux Colossiens la réconciliation de toutes choses, soit dans les cieux, soit sur la terre. Le troisième acte, nous l'avons dans notre chapitre 16, Au verset 21e, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur la tête et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Il y avait donc en ce jour-là un bouc offert en sacrifice, le bouc pour l'Éternel, et un autre bouc, le bouc pour Azazel, ou pour être Azazel, qui était précisément ce bouc qui était envoyé dans une terre inhabitée, tandis qu'il était chargé de toutes les transgressions, de toutes les iniquités et de tous les péchés des enfants d'Israël. Remarquons, chers amis, l'insistance de l'Esprit de Dieu pour nous parler de la somme incalculable des péchés, des transgressions et des iniquités commises par les enfants d'Israël. Exactement ce que nous-mêmes nous avons fait, ce que tout homme dans sa nature fait aux yeux de Dieu. Toutes leurs iniquités, toutes leurs transgressions, tous leurs péchés, tout cela était confessé par le souverain sacrificateur sur la tête du bouc pour Azazel. Et c'est ainsi qu'il s'en allait dans une terre habitée. Il s'en allait là, dans ce pays où il n'y avait rien à manger, le pays solitaire par excellence, et cette bête s'en allait là, mourir misérablement. On a dit que l'on avait dans le bouc pour Azazel le type le plus extraordinaire de la personne de Christ, chargé de tous nos péchés, et de toutes nos transgressions, et de toutes nos iniquités, le type le plus extraordinaire de l'Ancien Testament. Le bouc pour être Azazel, c'est-à-dire, que veut dire ce mot Azazel? Qui s'en va? Le bouc qui s'en va. Et il s'en allait, en effet, dans une terre inhabitée, pour y périr misérablement. Est-ce que nous n'avons pas là une image du Fils de l'homme? Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, après l'institution de la scène. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Ou dans un autre évangile, le Fils de l'homme s'en va bien, selon ce qui est déterminé. Il s'en est allé. Il s'en est allé, en effet, conformément au type du chapitre 16 du livre du Lévitique. Le Fils de l'homme s'en est allé. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et sur la croix, il a porté tous nos péchés, comme dit l'apôtre, en son corps, sur le bois. Et enfin, le quatrième acte, en hébreu 9, le troisième acte, c'est-à-dire cette confession de toutes les transgressions des enfants d'Israël sur la tête du bouc pour être Azazel, nous l'avons au verset 28e. Ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, il a porté les péchés de plusieurs, comme autrefois, le bouc pour Azazel est parti dans cette terre inhabitée, ayant sur sa tête confessé toutes les transgressions d'Israël par le souverain sacrificateur lui-même. Et enfin, le quatrième acte, c'était le retour d'Aaron dans le camp. Il sortait du lieu très saint. Il n'était pas mort dans la présence du Dieu saint, parce qu'il s'était présenté avec du sang, conformément à l'ordonnance. Maintenant, il sort. Il sort vivant du lieu très saint, et le peuple est comme soulagé de le voir apparaître, étant vivant. C'est là le quatrième acte. Et ainsi, cette cérémonie la plus solennelle qui soit prenait fin. Et ce quatrième acte, nous l'avons quant à la personne de Christ, tout à la fin de notre chapitre. Ainsi, le Christ aussi apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. Il apparaîtra une seconde fois, comme Aaron apparaissait au peuple étant vivant. Ainsi, bientôt, le Seigneur Jésus lui-même apparaîtra, sortant des lieux saints. Il apparaîtra à salut à ceux qui l'attendent. Ce sont là les quatre actes principaux que nous avons dans le chapitre 16 du Lévitique et dont la réalité nous est pleinement montrée dans la personne de Christ dans ces derniers versets, depuis le verset 24 au chapitre 9 de notre épître.
D'aspersion du sang. Aspersion du sang sur le propitiatoire, devant le propitiatoire. Aspersion du sang pour la purification du tabernacle et tout ce qui s'y rapportait. Et pour que et il y ait aspersion, il avait fallu l'effusion du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et quand nous pensons à ce qu'a été l'effusion du sang de Christ, sa mort sanglante, le sang coulant lorsqu'il était crucifié, le sang qui a jailli de son côté percé, cela nous parle, cela doit parler à nos cœurs, parce que cette effusion de sang, cette mort, ne s'est pas accomplie sans qu'était connu les plus terribles souffrances. Souffrance de la part des hommes, souffrance sous l'abandon de Dieu. Nous parlons de ces choses. Il ne faudrait pas que ce soit seulement des mots, des signes représentant quelque chose plus ou moins lointain, même de quelque chose de théorique, d'abstrait. Non point. Cela doit porter nos pensées et nos cœurs sur ce qu'a connu, ce qu'a enduré, ce qu'a souffert notre bien-aimé Sauveur. Il est question du sang. Il est question de son offrande. Mais il y a un mot qui nous retient. Il est parlé de souffrir. Verset 26. L'offrande a été parfaite, l'offrande a été définitive, le sacrifice est complet, il n'a pas à être renouvelé, c'est fait une fois pour toutes, de sorte que il ne s'est pas offert lui-même plusieurs fois. Tout ce que faisait le souverain sacrificateur au grand jour des propitiations n'était qu'un type qui était renouvelé chaque année. Alors, pour Christ, il n'est pas question de renouveler cette offrande. Cela met immédiatement par terre tout enseignement qui prétendrait et qui prétend, hélas, dans une grande partie de la chrétienté, parler de nouveaux sacrifices. Même si l'on parle de sacrifices non sanglants, ce qui n'a aucune signification. Mais Christ s'est offert, non pas plusieurs fois, mais une seule fois. Dans ce cas, il aurait fallu, nous est-il dit, qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde. Qu'il souffrit. Il a souffert une fois pour toutes.
Dans l'essentiel, nous avons à retenir trois points. Ce qui est relatif au propitiatoire, ce qui est relatif au tabernacle, et puis le fait que les péchés sont portés. En réalité, le propitiatoire, c'était le trône de Dieu, le tabernacle, l'arche. Le propitiatoire était à l'intérieur de l'arche. C'était le trône de Dieu. Et il ne s'agissait pas de jouer avec ces choses saintes, les enfants d'Aaron. Les fils d'Aaron l'ont appris. C'était un trône de jugement pour toute infraction aux instructions divines. Et il n'est devenu un propitiatoire que parce que le sang a été porté à l'intérieur. Au lieu que l'on ait à redouter que le jugement de Dieu, inexorable maintenant, une paix est faite par le sang. C'est ce que dit aussi l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, où les trois points sont aussi mentionnés. La paix faite, il s'agit des droits de Dieu, revendiqués, de sa gloire maintenue. Le tabernacle, la réconciliation de toutes choses. Et enfin, les croyants, il nous a réconciliés. Sorte que ces trois grands points se trouvent dans trois endroits. Dans le Lévitique, dans notre chapitre 9, et dans l'Épître aux Colossiens. On s'y perdrait facilement dans le détail du culte lévitique, des services lévitiques, mais grâce à ce que nous avons dans le Nouveau Testament, l'essentiel s'en dégage. Le sang a rendu Dieu favorable. Toutes les exigences ayant été satisfaites pleinement. Et il y a eu pour Dieu un gain même. Un gain en gloire. Il a été glorifié par le sacrifice de Christ, plus qu'il ne l'aurait été par une éternité d'innocence. On n'aurait jamais connu ce qu'est Dieu sans le péché et l'œuvre qui a fait face à cette question du péché. Nous ne prétendons pas tout expliquer, même ne cherchons pas à le faire, nous appuyons sur l'Écriture. Mais Dieu a été tellement honoré par l'obéissance de celui qui était parfait, et justement, étant parfait, il a mis en évidence les exigences de Dieu d'une façon absolue. Que maintenant il peut bénir. La porte est ouverte aux bénédictions. Quelqu'un a dit ceci, parlant non pas de lui, mais n'importe quel croyant, n'importe quel chrétien, et on peut dire croyant tout le temps, est la preuve nécessaire de la valeur du sang de Christ. Un croyant tout croyant n'était qu'un pécheur. Et Dieu est honoré maintenant en recevant devant lui ceux qui n'étaient que des pécheurs. Il est honoré. Il peut richement donner parce que sa gloire a été parfaitement revendiquée. Il n'y a pas de limite aux grâces que Dieu peut maintenant accorder à l'égard des hommes méchants que nous étions tous. Voilà pour le côté de Dieu. Le sang sur le propitiatoire. Nous remarquons que dans ce Lévitique, le souverain sacrificateur était précédé d'un nuage d'encens. La valeur de la personne de Christ a précédé son œuvre. A permis qu'il accomplisse l'œuvre quelle qu'elle fût. La personne avant l'œuvre pour Christ. Il n'aurait pas pu avoir l'œuvre si la personne n'avait pas été ce qu'elle était. Nous en parlerons, Dieu voulant, au chapitre suivant. Nos péchés ont été portés, expiés. C'est un des trois points. Et l'autre, la réconciliation. Colossiens parle de réconciliation. Double. La réconciliation des croyants, nous comprenons cela. Mais la réconciliation de toutes choses, cela rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure à l'égard de l'application du sang au tabernacle. Dieu sera satisfait, même à l'égard de l'ancienne création, il mettra de l'ordre. Réconciliation, les choses ne sont pas coupables. Le mot réconcilier en Colossiens ne parle pas nécessairement de culpabilité, ne sous-entend pas nécessairement culpabilité. Il l'exprime quand il s'agit des personnes. Mais là, pour les choses, il s'agit d'une purification. On a expliqué cela, ça a été le sujet de plusieurs examens. C'est une remise en ordre des choses, selon Dieu. Réconciliation ne veut pas, le mot ne veut pas dire seulement entre des personnes. Et en effet, nous sommes peut-être trop peu conscients du rôle qu'ont joué, que jouent et que joueront Satan et ses anges. Il y a là, si la présence de l'homme pécheur dans le monde est une anomalie, ce n'est pas une anomalie d'une importance inférieure que la présence de tous ces êtres que nous ne voyons pas, mais qui sont actifs, que Dieu contrôle, mais qu'il n'a pas éliminé encore de la scène. Cela viendra. Et si Dieu mettra de l'ordre, non par une destruction totale de toute chose, ce sera grâce au sang de la croix qu'il pourra ouvrir la porte, qu'il a pu et qu'il peut ouvrir la porte à une bénédiction infiniment supérieure à tout ce que pouvait offrir la terre. Tout l'avenir repose sur les trois heures de la croix. Toute la gloire de Dieu repose sur cela. Toute la bénédiction des élus également. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a demandé que l'Église se souvienne continuellement de cela et d'une façon particulière chaque dimanche.
Combien il est important de revenir sur ce point fondamental de la valeur, de l'excellence de la personne offerte. Christ lui-même, tout autre sacrifice ne pouvait être qu'une figure de cela. Mais quand lui s'est offert sans tâche, dans l'excellence de cette personne, celui en qui toute la plénitude s'est plu à habiter, quand nous pensons que c'est une telle personne qui s'est offerte, c'est là ce qui donne, comme il vient d'être rappelé, sa valeur à l'œuvre elle-même. En parlant de cette entrée du sacrificateur dans le lieu très saint, pour faire aspersion du sang, et en le représentant ainsi comme portant, pourrons y revenir au chapitre 10, effectivement, portant à la fois le sang et l'encens. L'encens pris sur l'autel des parfums. Nous avons à la fois l'excellence, le parfum de l'odeur de sa personne pour Dieu et l'œuvre accomplie. Un frère du siècle dernier dit cela dans une phrase forte en disant ainsi, Christ lui-même prend le pas sur son propre sang. La personne prend le pas sur le sang. Le sang n'a de valeur que par rapport à l'excellence de cette personne. Et il fallait cela pour notre réconciliation à nous qui étions ennemis de Dieu, et pour que toutes les choses qui ont été en contact avec le péché et de la créature, quelle qu'elle soit, et par là aliénée de Dieu, étrangère à Dieu, et qui dans ce sens-là avait besoin d'être réconciliée, et que tout fût ainsi réconcilié avec Dieu. Et alors, il fallait, pour qu'il y eût réconciliation, il fallait purification. Dieu ne peut pas admettre, et Dieu ne peut pas se réconcilier, ou du moins ne peut pas admettre comme réconcilié, ne peut pas réconcilier avec lui quelqu'un d'impur. Et il ne peut pas reconnaître comme sienne, et comme capable de porter quelque chose de sa gloire, et des choses impures. Il faut une purification, et elle est préalable à la réconciliation. De sorte que nous avons C'est un grand passage du chapitre 1er des Colossiens, de chapitre 9 des Hébreux, qui se complète d'une manière divine. Et c'est là ce qui donne une base sûre aux croyants. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Eh bien, le sang a été versé, le sang a été porté sur le propitiatoire, dans la présence de Dieu, sur le trône même de Dieu. Et effectivement, le dessus de l'arche peut devenir le propitiatoire, ce qui rend Dieu propice aux pécheurs, parce que le sang a été porté là. Et dans le chapitre 3 des Romains, nous avons cette grande parole, n'est-ce pas ? Nous avons la rémission des péchés par son sang, par le sang de Christ. La rédemption qui est étant justifiée gratuitement, chapitre 3 des Romains, verset 24, étant justifiée gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il a obtenu une rédemption éternelle, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire. La chose va si loin que Christ lui-même, dans toute la valeur de sa personne et de son œuvre, se trouve identifié avec le propitiatoire. Il a présenté pour propitiatoire, alors par la foi en son sang. Quelle base sûre pour le croyant. Quelle assurance la donne au pécheur qui s'approche, qui peut s'approcher, qui doit s'approcher, en tremblant, en ayant conscience, lorsque la parole de Dieu l'a convaincu de son état de culpabilité. Or, s'il s'agissait de faire seulement la confession de tous les péchés connus de nous, la liste serait interminable. Nous n'y arriverions pas, même de ceux dont nous avons eu conscience, dont nous pouvons nous souvenir. Qu'est-ce qui établirait cette liste-là? Et, en réalité, pour Dieu, nos manquements, et nos péchés dépassent infiniment ce que nous pourrions connaître. Eh bien, quand on prend conscience de cela, quand on se voit devant Dieu, couvert de ses iniquités, de ses péchés, on dit, mais comment seront-ils remis? Le sang est répandu. Et Dieu présente le propitiatoire avec le sang. Christ comme le propitiatoire, portant et portant éternellement devant Dieu, le Dieu juste, le Dieu saint, le sang qui parle de ce châtiment qui a été porté et qui parle d'une justice satisfaite et qui assure la rémission des péchés. C'est pourquoi, quand ceux pour lesquels cette œuvre a son efficace, c'est-à-dire ceux qui croient en Christ, ceux qui sont désignés par le terme, par le pronom, de plusieurs. Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs. Sans doute, l'œuvre de Christ est suffisante pour vis-à-vis de tous les péchés du monde. Mais, se trouvent au bénéfice de cette œuvre, non pas tous les hommes, comme on voudrait nous le faire penser, comme on l'enseigne quelquefois, mais plusieurs. Un grand nombre, oh oui, par la grâce de Dieu, une multitude, mais ceux qui, par la foi, se seront approchés de ce propitiatoire. Nous l'avons lu en propre terme dans ce 3 des Romains. Par la foi en son sang, le sang a été versé et sa valeur est offerte à tous. Mais pour ceux qui, méprisant l'esprit de grâce, comme cela nous a été rappelé hier soir, et foulant aux pieds, ou plutôt estimant profane le sang de l'Alliance, refusent de reconnaître leur état de péché d'abord, et par conséquent le besoin d'un sauveur, et d'accepter la grâce de Dieu et qui leur présente ce sauveur et leur supplie de croire, que reste-t-il? Mais si on laisse de côté ce sang de l'Alliance, si on foule ainsi aux pieds le Fils de Dieu, selon la même expression de la fin du chapitre, comment peut-il y avoir de rémission? C'est là le péché irrémissible, le péché contre Christ, le péché contre l'Esprit éternel par lequel il s'est offert sans tâche, le mépris de la grâce de Dieu. Combien cela est solennel. Mais pour le croyant, pour les plusieurs, Azazel, le bouc qui s'en va, est parti, et il n'est pas revenu. Les péchés ont été portés dans le lieu lointain, et dans la terre inhabitée. Nous retrouverons cela au chapitre 10. Dieu ne s'en souvient plus. Et alors, il reste pour nous à attendre, et c'est la part de tout croyant, c'est le caractère propre de tout croyant ici-bas, c'est d'être laissé sur la terre en attendant la seconde venue, le retour, mais le retour en gloire, de celui qui apparaîtra une seconde fois, sans péché, un salut à ceux qui s'attendent et qui l'attendent. Il ne sera plus question de péché, il a été insisté tout à l'heure. Nos corps eux-mêmes, car il ne restera que cela à sauver, à délivrer, à enlever de cette scène, nos corps mortels connaîtront sa victoire et il ne sera plus question de péché. Dans les corps nouveaux, les corps semblables à Christ, les corps de résurrection, il n'y aura pas trace de péché, et il en sera ainsi à jamais.
À propos de ce que les frères ont dit concernant l'excellence de la personne de Christ, excellence de la personne qui a précédé son œuvre, nous aimerions poser une question mais en rapport avec les sacrifices eux-mêmes. Dans le grand jour des expiations, il était parlé de ce nuage d'encens dans lequel venait se mouvoir le souverain sacrificateur. Mais quant aux sacrifices eux-mêmes, est-ce que nous avons une pensée semblable quand il est parlé d'une façon simultanée de la graisse et du sang, constituant le pain de Dieu? la nourriture du cœur de Dieu. À cet égard, nous aimerions lire un passage en Ézéchiel 44. Un de nos frères ce matin a lu les premiers versets du chapitre 28 des Nombres. Vous prendrez garde à m'offrir mon pain. Et la lecture de ce passage a amené la citation du passage d'Ézéchiel 44 au verset 7, où l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, doit faire un amer reproche et en fait prendre une décision définitive à l'égard de ce peuple. Nous lisons Ézéchiel 44, 7. « C'en est assez de toutes vos abominations, maison d'Israël, que vous ayez amené les fils de l'étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour qu'ils fussent dans mon sanctuaire, ma maison, pour le profaner quand vous avez présenté mon pain, la graisse et le sang. Vous avez présenté mon pain, ce qui fait la nourriture de mon cœur, l'aliment de toutes mes affections, c'est-à-dire la graisse et le sang. Dans la graisse, n'avons-nous pas le type des perfections morales du Seigneur? N'avons-nous pas le tableau de cette énergie qui toujours s'est manifestée sous la seule impulsion de la volonté de Dieu? N'avons-nous pas autrement dit, dans la graisse, quelque chose en figure de la perfection intrinsèque de la personne de Christ? Et puis le sang est mentionné en second lieu, qui nous fait penser alors à l'œuvre accomplie par Christ. La graisse et le sang étaient là constituant le pain de Dieu, ce qui faisait la nourriture de son cœur. Et nous posons la question quant aux sacrifices eux-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas déjà cette pensée de la perfection, de l'excellence de Christ, précédant pour ainsi dire la perfection, l'excellence de son œuvre?
Pas faire de doute.
Avant de s'offrir, il a plu à Dieu dans toute sa vie. Toute sa vie, toute son énergie, toutes ses forces étaient consacrées à obéir. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir.
Sorte que le fait même qu'il ait été agréé comme sacrifice est une démonstration, peut-être la plus parlante et la plus puissante, de cette excellence unique de sa personne. Que Dieu ait agréé cette œuvre, que Dieu ait agréé le sang apporté en sa présence, autrement dit, cette vie offerte, et Christ entrant dans le sanctuaire céleste une fois son œuvre achevée. Quelle plus grande démonstration que c'était bien l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tâche, préconnu dès avant la fondation du monde. Cela avait été proclamé lorsqu'il était sur la terre, cela vient nous être rappelé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Et cela est proclamé dans le fait que Dieu agrée, rend témoignage à la valeur du sang versé. C'est le sang d'une victime parfaite. Et si l'on ose sur un terrain aussi sacré, aussi saint, aussi redoutable, aller plus loin. Est-ce que cela ne nous conduit pas à considérer, oui, les pieds déchaussés et avec adoration, ce qu'il en a été, et lorsque l'œuvre même a été effectuée, que le sacrifice a été consommé, que le bras de la justice de Dieu a dû s'abattre, sur, non seulement une victime innocente, une victime qui, par elle-même, ne méritait pas le châtiment, mais sur cette personne d'un prix, oui, d'une valeur inexprimable, indicible. Celui qui était un homme, oui, mais Dieu manifesté en chair, nous le disons, en tremblant, en parlant de choses aussi grandes. Christ, on l'a exprimé plusieurs fois, n'a jamais été plus agréable, si on ose parler ainsi au cœur de Dieu, que lorsque, souffrant lui-même par l'Esprit éternel à Dieu sans tâche, il était frappé comme celui qui était fait péché pour nous.
C'est la dernière fois qu'il est parlé du salut dans l'Épître aux Hébreux, comme on a pu s'en rendre compte au cours de ces années d'études de cette Épître. Les vérités sont souvent présentées par groupe de sept, et il en est de même pour le salut. Depuis la fin du chapitre premier jusqu'à notre chapitre, il est parlé sept fois du salut dans cette Épître. Du salut envisagé soit comme le salut initial, ou comme le salut présent, actuel, dans la course, ou comme le salut final, tel que nous l'avons dans notre verset. Christ apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Il est dit sans péché. Est-ce qu'il est exact de dire ceci, que dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, quand il est dit que Christ est mort une fois pour toutes au péché, nous avons la question du péché réglée définitivement et la déclaration de la chose nous est faite à propos de la première venue du Seigneur dans le monde, c'est-à-dire quand il vint pour souffrir, pour mourir, en effet, pour régler d'une façon définitive la question du péché. Et dans notre verset, il est rappelé que le Seigneur viendra sans péché. En rapport avec sa seconde venue, il nous est donc dit que le Seigneur n'aura plus à s'occuper du péché parce que cela il l'a fait une fois pour toutes lorsqu'il vint sur cette terre pour souffrir et mourir sur la croix. La pensée que la question du péché est définitivement réglée aux yeux de Dieu nous est mentionnée en rapport avec sa première venue dans le monde, Romains 6, et en rapport avec sa seconde venue, dernier verset de notre chapitre.
La mise à effet de ce qui a été accompli dans son principe et selon Dieu et pour la pleine satisfaction des droits de Dieu à la croix. Il nous est parlé ici, n'est-ce pas, au chapitre 9, de l'abolition du péché par son sacrifice. Il a été manifesté une fois pour toutes. C'est ce qui a eu lieu. Sa venue dans ce monde, son œuvre, à la croix. Manifesté une fois pour l'abolition du péché, mais par son sacrifice. C'est là que le péché a été aboli, que la mise à effet soit prorogée et qu'elle soit encore à venir, n'enlève rien au fait que c'est à la croix, par son sacrifice, que l'abolition a été faite. Et c'est ce que la foi saisit dès maintenant.
Pourrait-on dire quelques mots
Sur le fait qu'une telle personne est entrée dans le ciel pour afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Fin du verset 24. Afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
Dans le ciel même, c'est toujours le contraste entre ce qui n'était qu'une figure, figure pour le temps présent, le temps de la première alliance, la réalité étant le sanctuaire céleste, le ciel, et Christ paraît là, maintenant. Non pas dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, et il paraît maintenant, tandis qu'il est absent de ce monde et que la foi seule le voit dans le ciel, il paraît maintenant devant la face de Dieu même. Pour nous. Maintenant, sans attendre de présenter effectivement les siens à Dieu. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous avons trouvé cela au chapitre 2, c'est actuel pour les croyants, pour les chrétiens, pour les gens pour les croyants de la période actuelle, aussi bien que ce sera accompli en plénitude quand nous serons effectivement dans le ciel avec Christ. Ouais, on peut peut-être quelque chose à me dire là-dessus.
Est-ce que la pensée de l'exercice de la sacrificature de Christ, nous l'avons dans ce verset 24e, il paraît pour nous, est-ce que nous pouvons traduire par « en notre faveur » ?
Bien sûr.
Ah oui, c'est ça.
N'est-ce pas précisément dans notre souverain sacrificateur que nous trouvons devant Dieu et c'est lui qui paraît, regarde au Dieu et voit la face de Tonoin, la figure du saint du sacrificateur nous portant dans la présence de Dieu sur ses épaules, sur sa poitrine, les épaulières et le pectoral de l'éphod, tout cela vient à notre esprit quand nous lisons ces choses.
Cela occupe une place importante dans toute l'épître.
Et nous voyons que ce sujet si important de la souveraine sacrificature de Christ n'est pas terminé au chapitre 8e, quand l'apôtre dit « Or la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. » On l'a dit l'an dernier, le mot « somme » ne veut pas dire seulement un ensemble, un total de la vérité concernant ce sujet, mais il y a l'idée du sommet. Le terme du texte original le dit clairement. Il y a l'idée d'un sommet, l'idée d'une tête, un sommet atteint dans le développement de ce glorieux sujet de la sacrificature de Christ. Et alors, on pourrait s'attendre à ceci, que du moment que nous sommes arrivés au sommet, l'apôtre n'a plus rien à nous dire concernant ce glorieux sujet. Tel n'est pas le cas. Ce glorieux sujet commence avec la fin du chapitre 2, nous le savons, où il est parlé des caractères d'un tel souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle, secourable. Et l'apôtre développe tout ce sujet jusqu'au chapitre 8e pour nous montrer que une telle sacrificature est une absolue réalité. Christ est dans la gloire, il est invisible, cela est vrai, mais nous l'avons, il est à nous, il est à vous. Frères, sortis du peuple d'Israël, devenus des chrétiens, il est à vous, vous le possédez. Vous possédez un tel, vous avez cet immense privilège d'avoir pour vous un tel souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, qui paraît maintenant pour vous devant Dieu. Au chapitre 8e, le sujet n'est donc pas clos, et du reste, il nous est dit au verset 3e que tout souverain sacrificateur en Israël est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à offrir. Celui-ci, c'est le Christ. C'est le Seigneur de gloire. Quelque chose, qu'est-ce que c'est, sinon le sang précieux dont il nous est parlé tout au long du chapitre 9, et puis le corps, l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes, que nous avons au chapitre 10e. Le sang de Christ et le corps de Christ, voilà ce que lui-même a offert, voilà ce quelque chose qu'il était nécessaire qu'il eût lui aussi à offrir. Et alors, sur ce fondement établi dans les chapitres 9 et 10, nous avons tout l'édifice de la sacrificature de Christ, et l'apôtre, Dieu soit béni qu'il en soit ainsi, continue, après le chapitre 8, à nous parler d'un tel sujet. En particulier, dans ce verset 24, Christ est là, dans le ciel, grand souverain sacrificateur, paraissant devant Dieu pour nous, en notre faveur.
Comme nous le disions hier, ce chapitre parle moins de l'exercice de la sacrificature, cela nous le trouvons dans la première partie de l'épître, cela vient nous être rappelé, l'exercice de la sacrificature, que de la base solide, sûre de cette sacrificature, c'est-à-dire le sang de Christ et le sang porté dans les lieux saints.
Même si nous n'avons pas une conscience suffisante de la valeur de ces choses, nous pouvons être certains que si elles sont établies, c'est qu'il le fallait pour Dieu, à notre égard. Dieu n'attend pas que nous ayons tout compris pour faire ce qu'il faut pour nous bénir.
Heureusement.
Nous pourrions chanter les versets 3 et 4 de l'hymne 46e.
Qu'est-ce qui manque à la réalisation pour nous d'un plein salut? Nous l'avons comme la part actuelle de nos âmes. Ce qui manque, c'est ce que Jude nous présente en disant « attendant », c'est la même expression, « attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle ». Ce qui manque, ce qui amène tant de soupirs, si nous réalisons que c'est dans notre corps tant fragile que ces choses se réalisent avec le secours de l'esprit, ce qui manque, c'est de lui être fait semblable. C'est l'adoption. La délivrance de notre corps, comme nous avons déjà reçu par la foi, la certitude de notre délivrance de tous nos péchés et de la place que, en lui, nous occupons là-haut. Il paraît pour nous devant la face de Dieu. Il nous représente devant Dieu et nous devons nous y voir en lui. C'est Éphésiens 2. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Mais cela est le privilège, présentement, c'est le privilège de la foi. Nous attendons cette apparition. Il est venu une première fois, s'est occupé du péché. Il va venir une seconde fois, n'ayant plus à s'occuper du péché. L'expression est très, très concise. Il apparaîtra une seconde fois sans péché. La note est là pour nous aider un peu. N'ayant rien à part le péché, n'ayant plus rien à faire avec lui. Mais il apparaîtra à salut à ceux qui l'attendent. Comprenons bien qu'ici, l'attente du Christ est le privilège de tous ceux dont il a porté les péchés en son corps sur le bois, de tous ceux qu'il présente à Dieu maintenant là-haut dans le sanctuaire. Ceux qui l'attendent, c'est comme une expression caractéristique de la position du croyant maintenant. Que nous en tirions pour notre propre cœur le sens d'une nécessité de l'attendre, cela va sans dire. Mais nous sommes ici sur un terrain divin où tout est parfait selon le cœur de Dieu, où il n'y a plus rien à ajouter pour que tout soit selon les exigences de son amour et en vue de sa propre gloire. Nous sommes ceux qui l'attendent. De même qu'au chapitre 4 de cette même épître, nous sommes considérés comme entrant dans le repos. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Il n'est pas une question là, il n'est pas question d'effort spirituel, mais de l'effort de nos âmes. Il est question de ce fait que celui qui est venu une première fois apparaîtra une seconde fois à salut à ceux qui attendent. Ce sera l'acte de la suprême miséricorde dont parle Jude. Quelle merveille! Quelle grâce précieuse! Bientôt, nous allons le voir. Cette apparition est présentée comme une certitude divine. Bientôt, elle aura sa réalisation pour ceux qui vont être rendus conformes au corps de sa gloire. Mais il y a un deuxième aspect. Cette apparition, nous oserions dire qu'elle aura lieu en deux temps. Celle qui nous concerne, c'est l'espérance de l'Église. Il n'est pas question de l'Église ici. Le sujet d'ailleurs n'est traité qu'en une vague allusion au chapitre 12. Mais pourtant, pour nous qui par grâce constituons l'Église du Christ, l'Église qu'il va venir chercher pour que l'union de la tête et du corps soit manifestée en perfection, en efficace. Nous qui sommes là faisant partie de ceux qui l'attendent, comme aussi en ont fait partie tous les saints de l'Ancien Testament. Ils avaient cela devant leur cœur. Abraham, il attendait la résurrection. Les choses qui étaient révélées à son cœur l'avaient saisi et il attendait. Ceux qui l'attendent. Eh bien, bientôt, le premier acte de cette seconde venue sera réalisé pour la satisfaction profonde de Jésus et du Père. Mais il y a un deuxième acte. Il va y avoir sur la terre, quand l'Église aura été prise, enlevée, un témoignage rendu à Dieu pour un autre temps et pour un autre cadre. Ce sera le cadre terrestre. Il y aura aussi là ceux qui attendront. Ils seront de ceux qui attendent, ceux qui dans la souffrance, dans l'épreuve profonde, la détresse de Jacob, auront de telles expressions que emploie Esaïe, « Oh, si tu ouvrais les cieux, si tu fendais les cieux, et si tu descendais. » Il y aura aussi alors ceux qui l'attendent, les résidus, pieux, juifs, convertis, et tous ceux qui, par son témoignage, auront été amenés à attendre le Seigneur. C'est merveilleux de voir comment l'œuvre du Christ répond pleinement à tout ce que son cœur à lui désire. Répond pleinement à l'attente de la foi des siens. Et peut-être, oserions-nous dire qu'au temps de son infini, de sa profonde détresse, quand ils recevront le peuple qu'il a percé, le double pour tous leurs péchés, peut-être l'attente sera-t-elle plus vivante et plus effective qu'elle n'est pour nous, chers amis, quant à sa réalisation. Mais un salut pour ceux qui l'attendent, nous allons bientôt le voir apparaître une seconde fois. Nous avons, et c'est la pensée qui a dû tous nous animer, nous avons été saisis par le rappel des souffrances et de la mort de notre bien-aimé Sauveur. S'il y avait ici une âme qui n'est pas sentie au profond d'elle-même cette sainte émotion, en pensant à celui qui a courbé la tête dans toute l'ardeur du jugement divin pesait sur lui, celui qui a pu dire par l'esprit prophétique, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Si votre cœur n'a pas eu de réponse, quand il dit, voyez, s'il eut une douleur comme ma douleur, eh bien, nous rappellerions dans le souvenir de services précieux dont nous avons joui autrefois. Nous rappellerons l'expression d'un cher évangéliste dans l'âme, ne parlant jamais de ces choses sans se tourner vers ceux qui, dans l'auditoire, auraient pu rester insensibles ou indifférents. Il avait l'habitude de dire « Que cela ne vous touche pas ? Il n'y a point d'écho dans vos cœurs ? Pour celui dont la douleur a dépassé toute mesure. Moi, ajoutait-il, et que cela puisse être notre sentiment intime à tous, moi, ajoutait-il, ça m'émeut profondément.
Je pourrais dire encore un mot sur cette expression d'attente. Ceux qui l'attendent. On peut probablement bien penser que tous ceux qui ont la foi sont ceux-là. Pour la bonne raison que du jour où ils font partie des vivants, ils ont en eux ce qui soupire après un autre monde. Ils ne l'ont pas parce qu'ils font effort pour l'avoir. Ils l'ont parce qu'ils ont une nature qui a d'autres aspirations que tout ce que cette création déchue offre, et même fut-elle saine. De sorte que nous ne nous trompons pas probablement en embrassant dans cette expression tous ceux qui, ayant reçu cette vie divine, et éprouvant par conséquent les besoins d'un ordre jusque-là pour eux entièrement inconnu, soupirent après ce qui répondra à tous ces besoins-là. Et on disait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de ce qui manque, de ce qui nous manque actuellement. La justification, l'assurance du salut, nous l'avons. Et nous pouvons en jouir. Mais nous pourrions dire que ce qui nous manque, c'est que tous les vœux profonds du nouvel homme soient comblés. Et ils ne le seront que quand nous serons semblables au Seigneur et avec lui. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous maintenir à un niveau inférieur à cela. Et le fait d'attendre le Seigneur ne résulte pas pour nous essentiellement dans la connaissance de la doctrine, de la vérité de la venue du Seigneur. Mais il est lié d'abord à ce que nous sommes de Christ. Et de ce que le nouvel homme n'est satisfait que par lui. Et qu'il soupire après l'état de choses où rien ne viendra entraver la jouissance des relations avec celui qui est le Sauveur.
Le fait d'attendre entraîne de la souffrance. Et en rapport avec ce que notre frère disait tout à l'heure concernant l'attente du peuple d'Israël à la fin des jours, il y a dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, dans un court chapitre, divisé en 7 versets seulement, le chapitre 18, il y a deux fois cette expression pour définir ce peuple. Un peuple merveilleux, un peuple qui attend. Attend quoi? Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de complément d'objet. Un peuple qui attend,
Voilà ce qu'il caractérisera. Il sera dans l'attente. Et qui attend? Qui attend quoi? Pas d'objet. Il y a là un silence qui laisse entendre ce que sera la souffrance de ce peuple dans le fait, le seul fait d'attendre la venue, l'apparition de son libérateur. Deux fois cette expression, un peuple qui attend, attend. Et à la fin du chapitre, la même expression. Il attendra longtemps, et cela, seul, impliquera une très grande souffrance. Il croira que le moment est venu, mais voici, il aura encore à attendre jusqu'à ce qu'enfin le libérateur vienne. Salomon, qui au premier abord ne paraît pas désirer se pencher sur des semblables problèmes, peut nous dire au chapitre 13 de son livre des Proverbes que l'attente différée rend le cœur malade.
La foi est inséparable dans le christianisme et d'une manière générale dans l'écriture de l'espérance. On ne croit pas seulement que certaines choses sont arrivées, on ne croit pas seulement des choses du passé, mais la foi s'attache à un objet qui est dans l'avenir. Elle s'appuie sur des faits qui sont passés, pour nous la mort, la résurrection de Christ, et elle attend des choses qui vont être révélées. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, trouvons-nous, au début du chapitre 11. On ne peut pas séparer la foi de l'espérance. Et alors, comme on ne peut pas séparer non plus la foi de son objet, la foi en elle-même, la foi quelque chose d'abstrait, une entité qui s'appelle la foi, ça n'existe pas. On a foi en quelque chose ou en quelqu'un. On a foi en une parole, on a foi en une personne. La foi a un objet. La foi, elle vient de la parole de Dieu, cela nous est dit, mais elle a un objet, cet objet, et c'est celui qui remplit la parole, et c'est Christ lui-même. Et Christ, dans ce qu'il a été, dans ce qu'il est présentement, pareil pour nous maintenant, dans la face de Dieu, et dans ce qu'il va bientôt apporter, dans la révélation de lui-même, dans sa seconde venue. Voilà ce qui caractérise un chrétien, un croyant.
De toute façon, le besoin profond du chrétien même, à son insu.
Pas du chrétien au sens là.
C'est ça. Ce besoin, c'est d'avoir Christ. Il peut ne pas pouvoir expliquer cela, mais c'est un besoin lié à la nature qu'il possède. Et un chrétien, où qu'il soit, même infidèle, il y a en lui quelque chose qui fait qu'il n'est pas comme un incrédule, même s'il marche plus mal. Il y a en lui, et le Saint-Esprit agit sur cette nature nouvelle, il y a là un appel plus ou moins contrarié, mais un appel qui vient d'en haut, un appel vers un autre monde. Et ne serait-ce pas l'un des traits distinctifs les plus marquants de ceux qui sont peut-être appelés à être des témoins ici-bas? Un des éléments les plus forts du témoignage en question,